RLP.
C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. On va commencer par un poème qui me tient à cœur, qui s'appelle « Le bal des folles ». Parce qu'il a une petite histoire qui me concerne. Quand j'étais gamin, ma grand-mère allait voir sa sœur qui était dans un hôpital de fous. Voilà. Et naturellement, nous, les enfants, j'avais, je ne sais pas, peut-être 8 ans, 9 ans, je ne sais plus, on n'avait pas le droit naturellement de rentrer. Alors on restait dans le jardin. Hein. Et puis, une fois, curieux, on regarde comme ça avec mon frère dans un soupirail qui donnait dans un sous-sol. Et qu'est-ce qui nous arrive d'un seul coup ? On prend une giclée de fumée de suie. C'était qu'il y avait des fous qui étaient là et ils se sont amusés à nous faire ça. Ma grand-mère, quand elle est sortie de l'immeuble, elle nous a regardé tout, le visage tout noir. Elle s'est demandé ce qui s'était passé, alors on lui a raconté. Bon, vous voyez, il ne faut jamais mettre son nez où il ne faut pas. Hein. Bon, sans parler du reste, hein, naturellement. Voilà. Alors, ce fut écrit, naturellement, en 2009, le 1er septembre, à 20h21. Et ça, c'est presque une histoire vraie, dans le coup. C'était une histoire qui s'est passée le 17 mars 1887, boulevard de l'Hôpital. Et en 1888, on inventa le bal des enfants épileptiques. Mais ça, c'est déjà tout un poème. Hein. Alors, on va faire d'abord le bal des femmes, des folles. La serpillière javelisée faisait son va-et-vient dans la grande salle de la salle pétrière. Voilà, c'était la salle pétrière. Mais ma grand-mère, ma vieille tante, elle, c'était à l'hôpital Sainte-Anne. La mi-carême attendait les folles. Les hystériques, les épileptiques, les hypnotiques se pomponnaient le museau tordu par la démence. Elles en rêvaient toute l'année en rongeant leur camisole. Le bal des folles prenait l'allure d'un bal des débutantes avec des chevaliers mâles en moins. Oui, parce que c'était l'époque où Azelmer n'était pas encore né et Freud n'avait pas encore fait le serment d'Hippocrate. L'époque des fous heureux, celle de la démence, tellement précoce qu'elle s'appelait par son petit nom, folie. Les loges souterraines ne servaient plus. Vous voyez, je parlais des loges souterraines. Hein, bon. Mais naturellement, bon, ce que je vous dis là, c'est brodé, bien sûr. Hein, c'est de la broderie, on va dire. Hein. Bon, je ne sais pas si les folles faisaient de la broderie, hein, par contre. Alors, les folles à moitié nues se rhabillaient, les rats ne rongeaient plus les pieds des folles pour les laisser enfin danser. Parce que quand elles étaient en effet dans le souterrain, il y avait des rats, et souvent ils venaient mordre les pieds des folles. Voilà. Hein. Alors les chaînes ne tintaient plus pendant le quadrille du Mardi Gras, les pieds devenaient souples, débarrassés de ses fers, le pas léger se perdait dans les trois temps valsés. La folle du pavillon 8 en Cendrillon dansait avec une sorcière le temps d'une polka éphémère. Les folles tournaient entre elles et son contraire. Les carafes de sirop et les gâteaux secs s'avalaient au rythme d'un pas cadencé. Les hurlements devenaient presque humains, malgré la folle du pavillon 4, qui chantait la Marseillaise à contre-courant. Puis, vers 17h, la musique s'arrêta, comme un électrochoc pour laisser place au sifflet des gardiennes, afin de finir ce bal par une dernière note un peu moins folle. Les fous tapis dans leur loge, privés de balles, se calmaient de nouveau en entendant le silence revenir. Voilà. Paris, c'était donc le 17 mars 1887. Donc c'est du vécu, mais interprété. Voilà. Hein. Interprété par moi, bien sûr. Hein. Ben, j'ai eu l'expérience, hein. J'en ai pris plein la gueule de la suite, moi. Hein. Bon, je sais ce qui s'est passé. Hein. Et oui. Alors tiens, on va revenir à la mer. Alors attention, pas la mère, pas ma maman, hein. La mère, celle qui plonge des fois et qui va rejoindre les océans et les rivières qui coulent dedans. Alors là, vous avez le rue, enfin j'ai pas dit la rue, le rue, la rivière, après vous avez le fleuve, après vous avez l'estuaire, et là, l'océan, la mer. Oh, que c'est beau, oh. Et Victor Hugo, figurez-vous, il a vu la mer, ouais. Ah ben ça, il l'a vu, lui, hein, parce qu'il a été exilé à l'île d'Elbe. Et là-bas, c'est une île, donc il y a de l'eau partout. Hein. Quels sont ces bruits sourds ? Écoutez vers l'onde, cette voix profonde qui pleure toujours, et qui toujours gronde. Quoiqu'un son plus clair parfois l'interrompe, le vent de la mer souffle dans sa trompe. Comme il pleut ce soir, n'est-ce pas mon hôte, là-bas, à la côte, le ciel est bien noir, la mer est bien haute, on dirait l'hiver. Parfois on s'y trompe, le vent de la mer souffle dans sa trompe. Ô marin perdu au loin dans cette ombre, sur la nef qui sombre, que de bras tendus vers la terre sombre, pas d'encre de fer, que le flot de rompe, le vent de la mer souffle dans sa trompe. Noché imprudent, le vent dans la voile, déchire la toile comme avec les dents. Là-haut, pas d'étoile, l'un lutte avec l'air, l'autre est à la pompe, le vent de la mer souffle dans la trompe. C'est toi, c'est ton feu, que le rocher rêve, quand le flot s'élève, chandelier que Dieu pose sur la grève, phare au rouge clair, que la brume estompe, le vent de la mer souffle dans sa trompe. Voilà. Mais il n'a pas mis la date. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors ça, c'est du Victor Hugo. Hein. Bon, il n'y a que lui pour écrire comme ça. Hein. Moi, j'ai essayé, j'y suis pas arrivé. Par contre, j'arrivais à écrire un peu comme Prévert. Allez donc savoir pourquoi. Parce que peut-être que Prévert m'inspirait beaucoup plus que Victor Hugo. Victor Hugo, c'est du solide, c'est du... Hein, c'est du plomb, ça. Ça peut pas s'abîmer. Hein. Remarquez, Prévert non plus. Et puis moi non plus, je peux pas m'abîmer, voyons. Hein. Vous avez vu, j'en suis à mon 18e livre. Hein. Bon, peut-être que j'en ai fait plus que Victor Hugo et Prévert, ça se trouve. Bon, sauf que les miens, ils sont, comment on appelle ça, ils sont intimes, hein, ils sont discrets. Hein. Ils sont pas dans toutes les librairies. Et ils sont pas à la Bibliothèque Nationale non plus. Hein. Même pas à la Bibliothèque de Périgueux. Ah, si, j'en ai mis à la Bibliothèque de Périgueux, si. En effet, une fois, j'en ai donné. Faites-moi plaisir, mettez mes bouquins en douce là, dans les rayons. Hein. Vous avez des rayons poésie. Allez, mettez un petit Méliès dans le rayon poésie. Peut-être qu'un jour, il y en a un, il va tomber dessus, il va le lire. Vous vous rendez compte? Et si moi, je l'apprends après, qu'il a lu mon livre. Vous vous rendez compte? Quel soulagement, hein. Se dire, enfin, j'ai un livre en bibliothèque qui a été lu. Je peux mourir serein. Non, je ne mourrai pas. J'ai encore des livres à écrire. Voilà. Alors... Et Brigitte Fontaine. Et elle dit, alors que c'est une femme, elle dit « je suis un poète ». Elle pourrait dire « je suis une poétesse ». Hein ? Ça serait la moindre politesse.
Je suis un poète. Je rêve et je flash sur les lueurs du liquide vaisselle, sur la couleur des bonbons à la menthe le long de l'Atlantique, sur le ciel plombé à travers les vitres des bars parisiens. Je suis un poète. Je tâte avec délicatesse les flaques de merde, plus douces que le miel. Je hume l'urine musquée des chats dans les taudis des quartiers chics, gothiques. Je suis un poète. Je file avec délice, merveilleusement, le long des autoroutes, noires et blanches. La nuit au cœur du monde, entre les squelettes obscurs des arbres déshabillés, sous la lune secrète. Je suis un poète, je craque pour les mammifères gracieux et immondes, oxymores domestiqués dans les quartiers chics. Et les HLM tentants aperçus par la vitre de la limousine ou du train. Je suis un poète et je ne vous embrasse pas. Mais je vous invite au bal des obscurs, des petits voleurs, des veines bleues, des basanés, à Fleury-Mérogis. À la santé et aux baumettes. Ouvrez les prisons. Elle nous tue.
Allez, sortez des prisons. Pour revivre. Elle a dit, ouvrez les prisons pour... Elle nous tue. Ben oui, mais bon. Et si on les sort, les prisonniers? Bon, alors ça dépend ce qu'ils ont fait. Hein. Bon, d'accord. Hein. S'ils ont volé un caramba à Alain Bernard, c'est pas grave. Bon, on va pas les foutre en prison. Hein. Mais s'ils ont volé l'État, par exemple, l'État. Hein. L'État de lieu, par exemple. Hein. Vous vous rendez compte? 3 000 milliards que, soi-disant, on aurait volé. Mais c'est incroyable, ça. Et en plus, il paraît que ce sont les salariés qui ont volé les 3 000 milliards. C'est pas les patrons, non, non. Les patrons, ils sont gentils. Ils font tout ce qu'il faut pour rendre heureux leurs salariés. Allons, arrêtez, arrêtez. Moi, je vais m'arrêter de le dire, parce que sinon, je vais me faire taper sur la tête. Dire des conneries pareilles. Allez, tiens, un grand événement. La sieste devrait être reconnue comme patrimoine mondial. Oui, vous voyez, ça c'était un slogan qui aurait pu être chanté ou dit le 18 septembre dans les manifs. Hein. Ben oui, c'est une revendication. Hein. Alors, comme les 7 merveilles du monde, et cela ferait 8, eh oui, la sieste est un acte social, comme les allocations familiales, ainsi que l'allocation logement. Et comment faire la sieste sans logement ? Dehors, par moins 20 degrés ou par 45 à l'ombre d'un sombre héros. Voulez-vous siester avec moi, ce qu'il disait à une femelle en chaleur? Car de tout temps, la sieste cochonne existait depuis la préhistoire et bien avant le dinosaure Étilicus qui confondait sieste et percolateur. Alors bon, le dinosaure Étilicus, je peux vous dire qui c'est. Hein, ben c'était le nom de Alain Bernard dans ses rubriques dans le journal des Hydropathes. Voilà, vous savez tout. Alors c'est vrai que le journal des Hydropathes, c'était un peu confidentiel. Figurez-vous, vous rendez compte, 6 milliards d'êtres humains sur Terre, et ce journal ne tirait qu'à 25 exemplaires. Ah, vous rendez compte, les gars qui l'ont eu, ce journal, ce sont des gars chanceux. Et d'un coup, ce sont devenus des collectionneurs. Ouais, parce qu'attendez, 25 exemplaires sur 6 milliards d'êtres humains, quand même, faut le faire. Hein. Bon, allez, passons à autre chose. Hein. Il arriva les Gaulois, et les Gaulois sans filtre. Donc, nus, qui gaudriotaient la nuit, alors, bien à eux, et jusqu'à celle des autres. Et les uns arrivèrent avant les autres, qui ne dormaient pas les yeux fermés à cause des mouches qui leur piquaient les fesses, parce qu'ils siestaient tout nus, comme dit auparavant. Non, ils ne se cachaient pas par derrière. Auparavant, car dans les HLM troglodytes, par cœur, il n'y avait pas de vent, sauf parfois des flatulences. Mais des flatulences saines et propres par derrière. Revenons à ce nouveau patrimoine mondial. Il faut savoir que la sieste n'est pas faite seulement que pour les riches bourgeois, mais aussi pour les oisifs, qui ne savent pas quoi faire de leurs 9 doigts, car le 10e décrotte les narines élargies par le besoin de vidange des naseaux et des pieds de nez, qui sont adressés aux bourgeois, en train de bâiller avant de s'allonger, et qui parfois devient une sieste crapuleuse, selon l'état et l'envie de la bourgeoisie. En général, cela est perceptible selon la position de celle-ci. Mais restons dans la perspective d'une sieste calme et réparatrice. N'anticipons pas, ne sachant pas comment la bourgeoisie copule, et combien de fois par sieste. Bon, après vous allez me dire, bon, oui, mais cela ne nous regarde pas. Bah oui, j'en connais qui disaient ça dans les matchs de football. Mais si, car si les bourgeois font plus d'enfants que le commun des mortels, il ne restera plus assez de sieste pour les pauvres et les oisifs. Hein, et le 8e patrimoine mondial sera réservé seulement aux riches et à leurs copains les capitalistes, qui eux ne font jamais rien avec leurs 9 doigts. Hein. Moralité, s'il n'y en a jamais dans ces cas-là, c'est du chacun pour soi-même, avec le 10e doigt ou la langue de bois dans la narine de droite. Ouais, ça fut écrit le 10 octobre 2019 à 11h18. Voilà. Bon, j'espère que quand vous me regardez, vous m'écoutez, vous ne mettez pas vos doigts dans votre nez. Hein. Parce que ça, je peux le savoir, ça. Hein. Oui, oui. Oui, je sais ça. Si vous m'écoutez avec un doigt dans le nez, oui. Oui, faites gaffe. Hein. Bon, alors. Si on passait, tiens, Georges Chelon, Crève misère, ça j'adore.
Sur le dos cabossé d'une vieille oubliée dans un coin de la terre, un fagot de bois mort versant de ses deux bords quetés sur les pierres. L'eau, l'eau et le fardeau, plus lourd encore à chaque pas nouveau. Menton à fleur de pierre, la vieille traîne misère et porte sa richesse. L'hiver écrase sa morgue et le vent joue à l'orgue avec ses jambes sèches. Lourde, lourde est la misère, plus lourde encore sous le joug de l'hiver. Le fagot à chaque pas devient un peu plus plat sur le dos de la vieille, mais elle ne s'arrête pas et reste peu de bois à trois pas de chez elle. Lasse, lasse était la vieille, plus lasse encore qu'au retour de la veille. Par le papier huilé, la porte dentelée sointe un coin de lumière. Et la vieille est entrée là pour se chauffer, immoler sa misère. Brûle bois mort, tu es l'homme de misère. Chauffe plus fort ce qu'il reste de chair. Mais il n'en restait pas lourd et le feu tourna court aussitôt flamme claire. Et la vieille oubliée s'en retournait chercher son bois mort de misère. Dieu, la voyant, est peiné et gémit. Tant eut pitié qu'il crut bon d'intervenir. Réjouis-toi. Je t'inscris dans mon livre, va, je t'accorde encore 10 ans à vivre.
Et voilà. Alors c'est vrai que je passe pas souvent, mais j'aime bien ses chansons à lui. Et j'aime bien aussi sa voix, il a une belle voix. Alors là, je viens de sortir mon fameux bouquin Poème pour les filles d'océan. Et j'étais une fois à La Rochelle, et j'ai écrit ce poème qui s'appelle « Le bateau solitaire ». C'était en 2001, on ne sait pas. Mais... Et donc, j'étais dans ce qu'on appelle le port des Minimes. C'est-à-dire que là, vous avez des bateaux de plaisance. Comme j'étais à la Toussaint, donc début novembre, ces bateaux-là vont rester à quai jusqu'au printemps prochain. Donc, c'est comme des épaves, vous voyez. C'est un peu comme des épaves, et ça ne bouge plus. Peut-être qu'il y a des gens qui vivent dessus. Moi, j'ai connu des copains quand j'étais en Guadeloupe. Ils vivaient sur leur bateau. Hein. Bon, ils avaient l'électricité sur le quai, ils avaient de l'eau potable, tout, et ils avaient les chiottes au dehors, au coiseau, quoi. Hein. Ça empêchait, c'est comme ça les empêchait de... Ils n'étaient pas obligés de vider leurs propres chiottes, parce que là, c'est pas pratique. Hein. Alors, vous le foutez à la mer, mais là, c'était dans le port. Donc, si vous mettez de la merde dans le port, ça pue. Bon, allez, le bateau solitaire. Elle avait vidé le tube d'aspirine dans l'océan pour lui soigner sa migraine et sa solitude. L'homme, face au vent de marée, sans ses chaussures et ni ses chaussettes, ni ses lunettes, pardon. Bon, j'aurais pu mettre ses chaussettes aussi. Hein. Bon, on va pas, vous n'allez pas mégoter comme ça parce que je n'ai pas dit les chaussettes. Hein. Méditait dans la position d'un yogi. Pas les chaussettes, hein, lui, l'homme. La mouette, au passage, avait beau lui faire des signes pour lui indiquer que l'enfant sur l'eau apprenait à se tenir debout sans s'abouer. Le port rempli de bateaux morts, avant la grande marée, pointait leurs mâts pour pousser les nuages loin de ce ciel qui tentait de rester bleu. Le port des Minimes devenait blanc de peur pour ces 1000 bateaux encastillés dans la vase basse qu'ignorait l'Espagne à quelques heures de plage. Une coque maigre de mer, vide, s'enivrait d'une marée salée après avoir dormi toute l'année. Une armée de piquebeux, sans voile, clapotait dans le port fabriqué, sans tenir compte des mouvements de marée. L'eau calme du port sentait la solitude malgré cette foule de folles traversées seulement imaginées. Un bateau s'échappa en prenant ses voiles à ses pieds. C'était le temps de chercher des horizons nouveaux. Voilà. Oui, on s'inspire comme ça, bah, là vous êtes sur le port. Alors un truc aussi, et je crois que j'en ai fait un poème également, je vais dans le port de La Rochelle, et c'était marée basse. Qu'est-ce que je vois au fond de la vase, au-dessus de la vase? Un vélo. Et j'en ai fait un poème en disant que c'était le vélo du facteur. Mais ça, je vous le raconterai une autre fois, hein, pas maintenant, hein, quand même. Hein. On ne va pas tout vous lire tout de suite. Hein. Bon. D'abord, vous savez, j'ai qu'une demi-heure hein, de rester avec vous. J'aimerais rester des heures et des heures avec vous, à vous contempler, en train de me contempler, par exemple. Hein. Ça serait joli, ça serait beau. Alors, il ne me reste pas grand-chose, il me reste 10 minutes. Mais vous savez qu'en 10 minutes, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Après, ça dépend de l'âge que vous avez. Hein. Bon, j'en dis pas plus. J'ai pas le droit d'abord. Allez, une petite recette, tiens. Le fameux bouquin que j'ai fait imprimer en un seul exemplaire, L'aventure d'un pied dans le plat ventre à terre. Et... Alors, ça s'appelle Dans la gueule d'Arthur. Et ce fut écrit en 2018, un 15 juin, juste après l'apéro, à 12h25. Les prothèses d'Arthur étaient devenues un culte, mais je lui avais trouvé quelques poussières d'intelligence coincées entre une molaire du haut et la dent de sagesse du bas. Juste à côté, un restant de pot-au-feu d'avant-hier, cuisiné avec dedans une neurone de Ramsès, le premier de la dysenterie. Mais c'est au moment où j'intervenais que le jus de raison se transforma en une espèce de Mireille Mathieu sans son casque de cheveux, mais avec cet accent de vérité venant de la garrigue de Pagnol. Et c'est à ce moment-là que Prévert et Boussuge interviennent pour me dire « Non, Momo !» Tu vas nous rendre inconnus alors que nous sommes du haut du pavé autopoétique. Que vient faire le pavé alors que mai 2019 n'a pas eu lieu à cause de l'augmentation de plus de 100% des pavés de Paname. J'en ai un chez moi, un pavé de mai 68. Je le garde parce qu'il va coûter une fortune après. Allez, arrête Momo, attends ton tour vers l'an de 24430. Là, tu pourras faire découvrir tes conneries. D'ailleurs, c'est ton code postal. Car à cette époque, il n'y aura que des cons, comme à notre époque. On espère avec Jeannot que les politiques seront stériles d'ici là, pour ne pas se reproduire et faire un tas de jeunes cons, car on est mal pour être lu. Et c'est là que je conclue que le con, ce n'est que s'il va vers les cons, sauf s'il va vers les moins cons. Voilà. Alors, j'ai lu quelque chose il n'y a pas très longtemps. Il y a un gars qui disait, il faut donner des capotes anglaises à tous les politiques pour pas qu'ils se reproduisent, qu'ils reproduisent des gosses. Et là, je m'aperçois que c'est un peu ce que je dis dans mon... Mais moi, c'était en 2018, hein, c'était pas en 2025. Hein. Bon, j'étais pas... Je pense pas que j'étais moins con en 2018. Ça devait être pareil, mais ça se voyait moins, peut-être. Hein. Ça se voyait un petit peu moins. Bon pas tout, hein. Mais... Bon. Comme quoi, vous voyez, même quand vous êtes con, vous pouvez être un élu. Hein. Ben oui. Donc n'hésitez pas, chers amis, si vous êtes un petit peu con, continuez à militer pour être un élu. Hein. C'est facile. Ben, comment ça, François, tu dis que c'est pas facile? Ah, parce que t'as connu un gars qui était pas con et qui a pas pu être élu? Ben oui, c'est parce qu'il était pas con qu'il a pas été élu, c'est tout. Voilà, c'est bien ce que je disais, tu vois. Bon, alors, il me reste... il me reste quand même 5 minutes. Oh, allez, tiens, je peux encore vous dire un truc. Allez, 5 minutes, tiens. Tiens, je vais changer un peu, ce ne sera pas un poème de moi, là. Ce sera un poème de Henri Bonnet, bon, qui malheureusement est décédé il y a... Enfin, maintenant, je ne sais plus quand. Hein. Slam de mon cœur. Et celui-là, qui a l'air triste, avec en plus une gueule d'artiste, il a tout pour être heureux. Mais il pense aux autres, c'est pas mieux. Celle qui, en riant, relate sans pudeur sa folle soirée avec l'homme de son cœur. Au lit, certes, elle y était, mais c'est de douleur qu'elle se tordait. Ils se mentent à eux-mêmes. Et c'est là le problème. Quand, avant le lever, grâce aux ans du voile, dans la glace, se demandait, t'as pas 100 balles. ton bonheur est potentiel. Crois en lui, t'auras des ailes. Poète, si peu, entre parenthèses, je pose mes fleurs. Ce soir, j'ai le slam au cœur. Ben, c'est tout. Je croyais qu'il y avait une suite. Non, c'est un autre poète qui n'avait pas de titre. Alors, la façon dont c'est moi qui fais la mise en page hein, de ces bouquins-là. Ben, il y a longtemps, hein, il est vieux ce bouquin. Hein, il est 2007. Hein. Et au final, comme il n'y avait pas de titre, j'avais l'impression que c'était la suite de Slam de mon cœur. Mais je ne vais pas vous le lire parce que d'abord, je ne vais pas avoir le temps. Et puis, j'aime pas lire les poèmes sans titre. Ouais. Moi, c'est le titre qui m'inspire. Là, si c'est sans titre, ça ne m'inspire pas. Hein. C'est normal. Et c'est souvent comme ça, d'ailleurs, hein, dans la vie. Alors, tiens, on a peut-être le temps de faire un tout petit Prévert. Ah, alors ce fameux livre Parole, ouais, hein, celui qui a été le plus vendu, il a été édité au moins une trentaine, quarantaine de fois. J'en ai vu plusieurs. J'en ai vu un qui s'était assis sur le chapeau d'un autre, il n'était pas, il tremblait. Il attendait quelque chose, n'importe quoi, la guerre, la fin du monde. Il lui était absolument impossible de faire un geste ou de parler. Et l'autre qui cherchait son chapeau, était plus pâle encore. Et lui aussi tremblait. Il se répétait sans cesse, mon chapeau. Et il avait envie de pleurer. J'en ai vu un qui lisait des journaux. J'en ai vu un qui saluait le drapeau. J'en ai vu un qui, habillé en noir, il avait une montre, une chaîne de montre, un porte-monnaie, une légion d'honneur et un pince-nez. J'en ai vu un qui tirait son enfant par la main et qui criait. J'en ai vu un avec un chien. J'en ai vu un avec une canne à épée. J'en ai vu un qui pleurait. J'en ai vu un qui entrait dans une église. J'en ai vu un autre qui en sortait. Voilà. Alors, vous voyez, ça me fait tousser, tellement c'est beau. Hein. C'est beau, hein. Il me reste encore du temps, dis donc. Oh, c'est pas vrai. Je lis trop vite. C'est pour ça. Donc, je rattrape le temps. Hein. Alors, tiens. Et la fête continue. Hein. Ben, c'est toujours de Prévert, hein, parce que lui, c'est toujours la fête. Hein. Debout devant le zinc. Sur le coup de 10 heures, un grand plombier zingueur, habillé en dimanche, et pourtant c'était lundi, chante pour lui tout seul, chante que c'est jeudi, qu'il n'ira pas en classe, que la guerre est finie, et le travail aussi, que la vie est si belle, et les filles si jolies. Et titubant devant le zingue, mais guidé par son fil à plomb, il s'arrête pile devant le patron. 3 paysans passeront et vous paieront, puis disparaît dans le soleil, sans régler les consommations, disparaît dans le soleil tout en continuant sa chanson. C'est pas beau, ça, hein? Ben oui, parce qu'au moins, le mec, il a risqué, il n'a pas payé ses consommations. C'est ça le plus beau du poème, hein? C'est que, vous voyez, comme ça, hein, vous faites... vous rentrez dans un bistrot, vous chantez, tout ça, vous buvez votre coup, vous vous tirez, le patron, il est ébahi, il écoute, et puis, vous barrez, vous en payez. Il va falloir que je fasse ça, moi, tiens. Ouais. Bon, c'est vrai que je ne vais pas beaucoup au bistrot, moi. Moi, je préfère boire chez moi, parce que, comme ça, personne ne me regarde, et personne dit, tiens, il a trop bu. Même si j'ai pas bu beaucoup, ils ne pourront pas dire que j'ai pas bu beaucoup non plus. Hein, voilà. Alors, je vais avoir plus le temps de vous raconter quoi que ce soit, mais je vous promets que la semaine prochaine, je vais encore vous raconter des histoires. Hein. Ah oui, ça, n'hésitez pas, vous savez, j'ai une semaine pour tout préparer, moi. Hein. Enfin, je mets 2 ou 3 heures pour préparer mon émission, voilà. Hein. Ma musique, je choisis parmi mes 500 bouquins, et je vous en amène toujours au moins une vingtaine de bouquins. Alors des fois, il y a des poèmes que je n'ai pas encore lus, parce que je ne vais pas pouvoir les lire parce que je n'ai pas fait attention qu'il y en avait qui étaient un petit peu longs. Donc, ils prenaient du temps sur un autre poème. Vous voyez ? C'est comme ça que ça se passe. Et alors, des fois, je vois mes bouquins, ils s'engueulent entre eux. Oui, il y en a un qui dit « Ouais, à cause de toi, j'ai pas pu passer. Pourquoi ? Hein ? Merde !» Alors, bon, pour le moment, ils s'engueulent. Le jour, ils vont se battre. Alors là, ça va faire mal. Hein. Je vais être obligé de les corriger. Hein. Ouais. Allez, je vous dis au revoir. Je vous souhaite un bon vendredi, un bon samedi, un bon dimanche et un bon lundi. Les autres jours de la semaine, j'en ai rien à foutre. Allez!